Voilà, encore une fois la bienvenue à chacun d'entre vous dans ce culte. Et maintenant, nous allons passer à un moment dans la Bible, dans la parole de Dieu, autour de notre enseignement sur le Saint-Esprit que nous continuons donc aujourd'hui. Alors, avant que nous puissions continuer, nous allons faire deux lectures dans la Bible qui vont nous éclairer un petit peu pour cette partie de l'enseignement. Alors je vais peut-être résumer en deux mots ce qu'on a vu avant, mais pas trop longtemps non plus. Donc on va lire premièrement Éphésiens 4, versets 11 à 14. Éphésiens 4, 11 à 14, où il est écrit: C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Amen. Et alors, un autre texte dans 1 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Je vais changer le mot. On dit, celui qui aspire à être un évêque, un ancien dans l'Église, désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que l'évêque soit un homme irréprochable. Marie, fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable. Qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner, il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Amen. Voilà. Alors, on va donc continuer, et on était arrivé, si vous vous souvenez, à la question des dons. Donc, on avait longuement parlé du fait que le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est une personne, qui est Dieu, il habite l'Église, il remplit l'Église et il donne des dons aux croyants, des capacités spirituelles aux croyants. À quels croyants? Est-ce qu'il y en a certains qui ont des dons? Non, à tous les croyants. Tous les croyants ont reçu des dons spirituels pour servir. Ce qui veut dire qu'en fait, dans la Bible, la conception biblique de l'Église, c'est un lieu où chacun exerce ses dons. L'Église, ce n'est pas un lieu où certains travaillent et les autres dorment. Ce n'est pas un lieu où certains ont quelque chose à apporter et d'autres n'ont rien à apporter. C'est un lieu où chacun apporte sa pierre à l'édifice avec ce que Dieu a mis en lui. D'accord? Et donc, on avait dit que voilà, on doit apprendre à reconnaître nos dons, à discerner nos dons, on doit les mettre au service des autres. Et c'est comme ça que l'Église grandit. Le Saint-Esprit agit au travers des dons qu'il donne aux uns et aux autres. Aujourd'hui, nous allons avancer un petit peu. Et nous allons nous arrêter sur la différence entre un don et un ministère. Et peut-être qu'on ne verra que ça aujourd'hui, parce que si on a déjà compris ça, c'est important qu'on comprenne la différence entre ce que la Bible appelle un don et ce que la Bible appelle un ministère. Mais avant, quelques précisions encore en ce qui concerne les dons spirituels que nous avons tous, que vous avez tous. C'est que les dons, il est important que nous puissions apprendre à accepter nos dons. À accepter nos dons et accepter les dons des autres. 1 Corinthiens 12, 14 à 31 dit « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires. Et un autre verset, « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » D'accord ? Donc ça veut dire que dans l'Église, chacun est indispensable. Et ce n'est pas simplement un slogan, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dans l'Église, tout le monde est indispensable. Comme dans un corps, on a besoin de la main, on a besoin des pieds, et donc chacun est indispensable. Mais si chacun est indispensable, et vous l'aurez bien compris, il est important que chacun soit à sa place. Et c'est comme ça que le corps fonctionne bien. Quand les yeux jouent le rôle des yeux, quand la tête joue le rôle de la tête, quand les pieds jouent le rôle de pied, c'est là que tout se passe bien. Si tout à coup les pieds commencent à jouer les yeux, que les yeux commencent à jouer les oreilles, ou que les oreilles disent aux yeux « j'ai pas besoin de toi », eh bien ça devient une cacophonie. Donc pour la bonne santé de l'Église, chacun doit mettre en œuvre ses dons, ce que Dieu a mis en lui pour le service. Mais aussi, pour la bonne santé de l'Église, chacun doit accepter ses propres dons et chacun doit accepter les dons des autres. Nous devons accepter nos propres dons et nous devons accepter les dons des autres. Je dois accepter et mettre en œuvre les dons que j'ai reçus. Donc, faut pas les cacher, comme dit la parabole des talents. Faut pas dire, ah oui, bon, moi, je sais le faire, mais bon, il y en a peut-être d'autres qui le feront mieux que moi, ou j'ai pas envie, ou je le ferai un autre jour. Non. Je dois accepter les dons que j'ai reçus, mais je dois aussi accepter les dons que les autres ont reçus. Et je dois accepter que chacun soit à sa place. Et c'est vraiment un défi dans une communauté, la nôtre, mais de toutes les autres aussi. Mais en même temps, c'est là que l'Église est en bonne santé. Quand on réussit à mettre chacun à sa place. Quand ceux qui ont des dons ne doivent pas les garder en eux, les étouffer en disant « oui, mais moi je sais le faire, mais personne ne veut que je le fasse ». Quand chacun peut exercer son don, mais que chacun peut exercer son don en bonne coordination avec les autres. En bonne coordination avec les autres. Ne pas vouloir faire ce que l'autre fait, ne pas vouloir que l'autre fasse ce que je fais, mais que chacun soit à sa place. Et ça peut demander une acceptation, ça peut demander un temps où devant le Seigneur, on dit « Seigneur, aide-moi à accepter que je dois travailler dans l'Église, aide-moi d'accepter de rester à ma place pour que le corps soit en bonne santé et que l'Église puisse avancer. » C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Alors aussi, je crois que cette fois-ci c'était le... Mais non. Essayer. Oui. Oui, si tu veux bien. Merci beaucoup. Aussi, les dons doivent être exploités et entretenus. D'accord ? Si vous avez reçu un don, je donne un exemple, si vous avez reçu le don d'évangélisation et que vous ne l'exercez pas, vous risquez à un moment donné d'avoir votre don qui va perdre sa force, sa vigueur, vous voyez. Les dons que l'on a, c'est pas une capacité. Le don ne fonctionne pas tout seul tout le temps. Il demande d'être travaillé, il demande qu'on puisse le réfléchir, qu'on puisse le pratiquer en fait. C'est comme un sport. Plus on pratique le sport, plus on est bon dans ce sport. Mais de la même façon, les dons qu'on a reçus, on doit les travailler, on doit les exploiter. C'est 2 Timothée 1,6 qui dit « C'est pourquoi je te le rappelle ». Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. On voyait que Dieu a fait un don à Timothée lorsqu'on lui a imposé les mains, mais l'apôtre lui dit, ravive le don. Ça veut dire qu'un don, ça peut se flétrir, ça peut se fatiguer si ça n'est pas mis en pratique. On peut avoir un don comme ça. Si vous avez le don d'évangélisation ou le don de prophétie ou le don d'encouragement et que vous n'en faites rien, eh bien, il va falloir passer par une étape où on ranime son don. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, concrètement, tous les jours, garder son don vivant, garder son don utile, garder son don vigoureux? Premièrement, c'est notre relation avec le Seigneur. Hein, le don ne doit pas être utilisé de façon déconnectée du Seigneur, mais c'est dans notre relation avec le Seigneur, dans la prière, dans l'adoration, dans la lecture de la Bible, eh bien nos dons gardent leur vigueur. Mais aussi en les pratiquant dans l'Église. Peut-être que vous avez le don d'encouragement, mais si vous n'allez jamais voir quelqu'un qui souffre, vous ne saurez pas comment on le met en œuvre. Il faut savoir aussi qu'un don, ça se travaille avec le temps. Quelqu'un peut au début avoir un don d'encouragement, on va prendre cet exemple-là, mais au début être très maladroit. Au début, il dit, voilà, je sais que j'ai ça en moi, j'ai cette force pour encourager les autres, mais parfois je dis la parole qu'il ne faut pas, ou je vais trop vite, ou je brusque les gens. Et donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir par rapport à ce don, en disant, ah oui, comment est-ce que je peux le mettre en œuvre, vous voyez ? De la même façon, il y a des dons parfois qu'on peut travailler quand on lit des livres, ce genre de choses. On va dire, voilà, moi je sais que j'ai le don d'intercession, le don de prier pour les autres. Mais voilà, je vais réfléchir concrètement à comment je peux faire pour prier pour les autres. Je vais faire un programme de prière. Je vais dire cette semaine-ci, je prierai pour telle famille de l'Église, telle famille de l'Église, telle famille de l'Église. Puis la semaine d'après, je prierai pour une autre. Vous voyez ? Donc un don, ce n'est pas juste un truc qu'on a et qui marche tout seul. D'accord ? Ça, il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête, parce que sinon, évidemment, on est déçu, parce qu'on dit, oui, mais je sais que j'ai ça en moi, mais ça ne marche pas. Mais oui, parce qu'il faut travailler, il faut exploiter ça. De la même façon que les dons naturels, on a vu les dons naturels, quelqu'un qui a le don naturel de jouer au piano, ben, ce n'est pas pour ça qu'il va se mettre au piano une fois tous les deux mois. Il doit pratiquer son art. Quelqu'un qui a le don du dessin, quelqu'un qui dessine très bien ou qui est architecte, ce genre de choses, mais même si tu as le don en toi, il faut quand même que tu puisses le travailler. Et donc pour chacun d'entre nous, les dons que nous avons découverts en nous, nous devons les travailler. Nous devons les mettre en pratique, nous devons réfléchir. Il y a même des dons qui demandent de se former. Vous savez qu'il y a tout un ensemble de formations qui se font dans le monde chrétien, des formations pour ceux qui conduisent la louange, des formations pour ceux qui font l'école de dimanche, des formations pour ceux qui gèrent les finances. Il y a plein de formations. Parce qu'une fois qu'on a un don, il ne suffit pas juste de l'avoir, il faut encore l'entretenir, il faut encore travailler avec ce don. Alors, on va en arriver maintenant à la fameuse distinction entre un don et un ministère, et je crois que si aujourd'hui nous avons tous compris cela, on aura déjà beaucoup avancé. Un don, un ministère, une charge dans l'Église, ce sont trois choses différentes. Différence entre un don, un ministère et une charge. Premièrement, qu'est-ce qu'un don ? On l'a vu, un don c'est une capacité spirituelle que Dieu donne. Qui a des dons ? Tous les croyants ont des dons. Tous les croyants ont des dons. Le don, un don, on va le voir par ses fruits dans l'Église, mais il n'y a pas forcément de reconnaissance du don. Ça, c'est le contraire, c'est ce qui différencie un don d'un ministère. Première différence entre un don et un ministère, c'est qu'un don, on l'a, mais on ne va pas forcément être reconnu de façon officielle dans l'Église. Alors qu'un ministère doit forcément être reconnu publiquement dans l'Église. D'accord ? Imaginez que vous avez le don de libéralité, en d'autres termes, le don de générosité, le don de faire avancer l'œuvre de Dieu au travers de l'argent, au travers des biens que vous avez. On ne va pas un dimanche matin vous présenter publiquement comme quelqu'un qui a le don de générosité. Vous voyez ? Vous avez le don, il est en vous, vous avez cette capacité-là, mais vous exercez ce don-là sans avoir une étiquette sur votre tête qui dit que vous avez le don. Et c'est ce qui différencie le don d'un ministère, parce qu'un ministère, c'est quelque chose qui est reconnu publiquement. Par exemple, quelqu'un qui est évangéliste, quelqu'un qui a un appel de Dieu pour évangéliser et pour former les autres à l'évangélisation, c'est quelque chose de public. Il va falloir à un moment donné qu'on présente à l'Assemblée tel frère qui est évangéliste. Vous voyez ? Donc c'est déjà une différence importante. Les dons, tout le monde en a, mais les ministères, c'est une autre dimension parce qu'il y a une dimension publique dans le ministère. Les dons peuvent être secrets, alors qu'un ministère va forcément être visible. Okay ? Une autre différence aussi, c'est que pour les dons, pour un don, il n'y a pas d'exigence de caractère pour les dons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu donne librement les dons à qui il veut. Il peut donner à quelqu'un le don d'encouragement, à quelqu'un le don de prophétie, il les donne librement. Quel que soit qui on est, d'accord ? Vous pouvez être un colérique et avoir le don d'encouragement.
Ça ne dépend pas des gens. Ça. Si Dieu décide de vous donner un don d'encouragement, il vous donne un don d'encouragement. Même si vous êtes colérique, même si vous n'êtes pas toujours quelqu'un d'agréable, voilà, c'est votre don, quel que soit votre caractère. Alors qu'un ministère, il y a des exigences vis-à-vis du caractère de la personne qui exerce le ministère, puisqu'il a une dimension publique. D'accord ? Donc par exemple, quelqu'un qui, et c'est ce qu'on a lu, même si on verra que la différence entre un ministère et une charge, on vient de lire 1 Timothée 3 en ce qui concerne les anciens. Et donc on dit là tout un ensemble de conditions qu'il y a pour être ancien. Mais vous voyez que là, il y a plein de conditions de caractère. Les anciens doivent être aimables, pacifiques, ils ne doivent pas aimer l'argent. Je donne des exemples. Eh bien ça, c'est la caractéristique d'un ministère ou d'une charge. On verra que c'est plutôt une charge ici. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le caractère de la personne, le comportement de la personne, sa façon de fonctionner est important. Alors qu'un don, c'est quelque chose qu'on a indépendamment de son caractère. Vous voyez ? Et donc, quand on est, comme le ministère va être établi publiquement, on va prendre le temps de s'occuper du caractère de la personne, de son comportement, de sa vie, de comment elle fonctionne avec les autres, parce que c'est important pour un ministère. Un ministère aussi, c'est une vocation, c'est un appel de Dieu. D'accord ? Un don, c'est une capacité que Dieu nous donne pour servir. Un ministère, c'est un appel de Dieu. Dieu nous demande de faire quelque chose. Dieu demande à une personne de réaliser une certaine tâche. Un ministère, comme je l'ai dit, demande une reconnaissance officielle dans l'Église. C'est-à-dire qu'on n'a pas un ministère secret. Les gens le savent. Par exemple, un diacre, c'est quelque chose qu'on sait. Vous n'êtes pas diacre dans votre secret sans que personne ne le sache. Tout le monde le sait. C'est une reconnaissance officielle. Une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que les ministères demandent d'avoir des dons. En fait, un ministère et un don, ce n'est pas la même chose, mais pour exercer un ministère, on a besoin d'avoir des dons. On n'exerce pas un ministère juste avec sa force ou ses bonnes intentions, on exerce un ministère avec les capacités que Dieu nous donne. Par exemple, un diacre peut avoir, souvent les diacres ont des dons du genre, dons de service, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un cœur pour servir les autres. D'accord ? Ça, c'est leur don. Et leur don, plus leur caractère, plus leur sagesse, plus leurs attitudes, vont faire qu'on va, à un moment donné, reconnaître un ministère. Vous voyez ? Les diacres ont aussi souvent des dons d'administration. Ce sont des bons gérants. Tout le monde ne gère pas bien les choses. Ils savent gérer des finances, ils savent gérer des documents, ils savent gérer un bâtiment. Ça, ce sont leurs dons. Et leur don, plus leurs compétences, plus leur caractère, va les amener à avoir un ministère qui est une reconnaissance publique d'une fonction dans l'Église. D'accord ? La différence aussi, c'est qu'un ministère exige, comme je l'ai dit, tout un ensemble de caractéristiques. Dans un ministère, il y a des tâches à faire, il y a des choses à faire. Il y a des capacités à avoir. On a dit, par exemple, les anciens, on a dit, ils doivent être capables d'enseigner. C'est comme une fonction dans le monde, ça demande, ça requiert un certain nombre de choses, alors qu'un don, c'est simplement une capacité pour servir. Donc, exemple d'un ministère. Pasteur, c'est un ministère. Évangéliste, c'est un ministère. Prophète, c'est un ministère. Voilà. Alors que les dons, c'est le don d'encouragement, le don de libéralité, le don de prophétie, le don d'intercession, le don d'évangélisation. Ça, ce sont des dons. D'accord ? Donc, c'est important de bien comprendre la différence entre les deux. Et alors aussi, la différence entre un don, un ministère et une charge. Une charge, c'est une responsabilité qu'on confie à quelqu'un, mais qui peut être limitée dans le temps. D'accord ? Donc, par exemple, c'est pour ça que je dis que diacre, c'est un ministère, mais c'est aussi une charge, parce que vous pouvez être diacre pendant quelques années et puis votre mandat s'arrête. Vous voyez ? Donc c'est un mandat limité dans le temps. Donc l'Église confie à quelqu'un une responsabilité pour un certain temps. D'accord ? Donc pourquoi c'est important de bien comprendre la différence entre un ministère et un don ? Tout simplement parce que dans l'Église, il faut en même temps que tous on ait des dons. Et c'est ce que Dieu fait par son esprit. Mais il faut aussi que dans l'Église, on puisse reconnaître des ministères. Il faut que dans l'Église, on puisse à un moment donné nommer des gens dans des fonctions en reconnaissant des compétences qu'ils ont pour quelque chose. D'accord ? Donc on va nommer des diacres, on va nommer des pasteurs, on va nommer des anciens, on va nommer des responsables de ministère qui vont être ceux qui vont coordonner le fonctionnement d'un ministère ou d'une partie de l'Église. D'accord ? Donc, remarquez par exemple aussi que dans la liste qu'on a lue d'un Timothée chapitre 3 concernant les anciens, on ne cite pas de dons. Les anciens, on ne leur demande pas d'avoir un don particulier. On dit qu'ils doivent être capables d'enseigner, mais ce n'est pas un don, c'est juste... Il y a plein de gens qui enseignent sans avoir le don d'enseignement. Et donc, ce qui compte dans un ministère, c'est d'abord le caractère plutôt que les dons. On ne cite même pas, on ne dit pas qu'il doit avoir le don d'encouragement, il doit avoir le don de... Non, on dit qu'il doit se comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est une différence importante à comprendre dans l'Église. Et donc, ce qui peut aussi différencier les diacres et les pasteurs, par exemple, ou les diacres et les anciens, c'est le fait que l'un est un ministère et l'autre est une charge. Bon. On peut aller à la suivante. Oui, tu peux le faire parce que ça ne marche pas. C'est moi, là, en fait. Ah oui, mais c'est ça, ok. Je me disais aussi qu'il y avait un truc qui était bizarre. Donc, je récapitule ici ce qu'on vient de dire. Le Saint-Esprit accorde à tous les membres du corps du Christ des dons spirituels qui les rendent capables de servir. Le don est une capacité spirituelle accordée pour un service spécial. Alors que le Saint-Esprit donne des personnes. Et c'est ça qu'on a lu dans Éphésiens 4, 11. Il y a une différence entre un don et un ministère don. Alors la différence, elle est simple, c'est qu'un don, c'est une capacité qu'on a. Un ministère don, c'est une personne qui est donnée par Dieu. C'est pour ça qu'Éphésiens 4 dit, il a donné, Dieu a donné des personnes à l'Église pour être des enseignants et ce genre de choses. Vous voyez ? Donc le don, tous les chrétiens l'ont, mais certains croyants vont être des dons que Dieu fait à l'Église pour un service particulier en vue de l'avancement de l'Église. Donc ils sont donnés par Christ à l'Église pour les servir, pour servir l'Église. Et il y a donc, en fait, on dit cinq ministères, mais en fait, il y en a quatre dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, évangélistes, et alors pasteurs et enseignants. En fait, c'est un seul ministère, c'est une seule fonction qui consiste d'une part à paître, à prendre soin, et d'autre part, à enseigner. Et effectivement, le Saint-Esprit donne aussi des personnes qui vont être des ministères dans l'Église pour tout un ensemble de fonctions. Des personnes qui vont être appelées à être responsables d'école du dimanche, qui vont être appelées à être responsables de l'évangélisation, qui vont être responsables de tout un ensemble de choses. Des présidents de culte. Et donc Dieu va aussi susciter un ensemble d'autres compétences pour l'Église. Voilà. On va s'arrêter à cette distinction-là pour aujourd'hui. Et simplement préciser pourquoi est-ce que c'est important de comprendre tout ça. Parce que c'est au travers de nous que Dieu fait avancer son royaume. C'est au travers des compétences qu'il nous a données à chacun qu'il fait avancer son royaume. C'est au travers des gens, des personnes qu'il donne à son Église qu'il fait avancer son royaume. Et donc nous devons considérer que cette question des ministères et des dons, ce n'est pas un détail. Parce que c'est au travers de cela que Dieu va toucher des âmes perdues. C'est au travers de ça que l'Église va être édifiée, que l'Église va grandir dans la foi. L'Église va grandir dans la foi au travers de la parole de Dieu, au travers de la communion fraternelle. C'est au travers de ce genre de choses que Dieu va relever des gens. Vous savez, ce qui est particulier avec les dons spirituels, c'est qu'il y a plein de choses que Dieu ne va pas faire lui-même. Il donne des dons dans l'Église pour qu'on le fasse. Il y a des moments où on voudrait être encouragé, mais en fait, c'est celui qui a le don d'encouragement qui doit jouer son rôle. Il y a des moments où quelqu'un a peut-être besoin d'argent parce qu'il est dans une situation difficile, mais comment est-ce que Dieu va agir ? Au travers de quelqu'un qui a le don de générosité. Et donc nous devons comprendre que c'est au travers de nous que Dieu fait son œuvre. Il nous a donné ce qui est nécessaire pour faire son œuvre. Il nous a donné des dons, tous. Il a mis dans l'Église des ministères, des fonctions, des charges, il a mis dans l'Église des anciens, des diacres, des responsables, des enseignants, des présidents de culte, des responsables de louange, des responsables d'école du dimanche. Il a donné tout ce qu'il faut pour que l'Église avance et qu'elle joue son rôle pour qu'au travers de tout ce qu'il a donné, des âmes soient sauvées, que l'Église grandisse, que la foi des uns et des autres grandisse, pour que les enfants soient enseignés, pour que les personnes qui souffrent soient encouragées, pour que les personnes qui sont perdues entendent la parole de Dieu, pour que les personnes qui ne connaissent rien à Dieu puissent apprendre à connaître Dieu, pour que ceux qui ne savent pas prier apprennent à prier. Vous voyez ? Donc au travers de nous tous, Dieu agit. Nous devons nous considérer comme étant les instruments particuliers de Dieu pour le service. Les instruments particuliers de Dieu pour faire avancer son œuvre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons tous apprendre à reconnaître nos dons. C'est une priorité. Une priorité que chacun d'entre nous, nous sachions, voilà, qu'est-ce que je dois amener dans l'Église ? Qu'est-ce que moi je dois apporter dans l'Église, dans mon service ? Mais qu'aussi nous puissions reconnaître les ministères qu'il y a autour de nous, que nous puissions comprendre le sens de chaque ministère, pourquoi les diacres font ceci, pourquoi les anciens font cela, pourquoi les pasteurs font ceci, pourquoi les présidents de culte font cela, parce que c'est au travers de tout ça, des dons, des ministères, que Dieu fait grandir son Église. Et bien plus, pas seulement la faire grandir, mais il permet que l'Église ait un impact sur l'extérieur. Que les gens qui viennent dans une Église découvrent quelqu'un qui va leur dire « Bonjour, comment allez-vous » et qui, avec son don d'encouragement, va les encourager. Qu'une personne qui a le don d'enseignement va leur expliquer un texte de la Bible pour qu'ils comprennent qui est Jésus, qu'est-ce que c'est la foi, comment avancer avec le Seigneur. Qu'une personne qui a le don de conduire la louange conduise la louange pour qu'on puisse ensemble adorer Dieu. L'Église, elle n'est vivante que quand chacun met ses dons en pratique et quand chaque ministère établi dans l'Église joue son rôle. Et c'est avec toutes ces choses que Dieu agit. Prenons conscience de cela et prions que Dieu permette que dans notre Église aussi, nous puissions être un peuple debout, un peuple où tout le monde est actif, un peuple où tout le monde comprend le but. Et on dit aussi que les ministères, ils ont pour but d'équiper les autres. Les gens qui ont des ministères dans l'Église, les pasteurs par exemple, leur rôle, c'est pas de tout faire eux-mêmes. Leur rôle, c'est d'aider les autres à jouer leur rôle, d'aider les autres à mettre en œuvre leurs dons, d'aider les autres à faire leur ministère, pour que l'Église soit un grand peuple où chacun est à l'œuvre. Où chacun est à l'œuvre. Et chacun joue son rôle. Amen. Voilà, nous allons chanter ce chant en lien avec cet enseignement sur le Saint-Esprit. Avec ton esprit. Tout cela se fait par l'Esprit de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu que nous allons avancer. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit. Avec ton esprit, nous mettrons nos dons au service. Avec ton esprit, les ministères serviront. Avec ton esprit, l'Église grandira. Avec ton esprit, l'Église sera unie. Avec ton esprit, l'Église fera connaître Jésus-Christ autour d'elle. Avec ton esprit.